Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Tout de suite, première question à Aude Catrice. Alors, en 4 ans, avec votre équipe, vous avez acquis près de 230 actifs, soit 8000 logements, ce qui représente un immeuble acquis par semaine partout en France. C'est quand même non négligeable. D'après votre expérience, quels sont les patrimoines, on va dire, adaptés à une opération de vente sociale ?
Alors, merci Bérénice. Donc effectivement, grâce à ces nombreuses acquisitions réalisées, mais aussi, je dirais, grâce au retour d'expérience issu des 112 biens déjà mis en commercialisation, on peut essayer de dresser un profil type ce matin d'un patrimoine adapté à une opération de vente sociale. Je pense que déjà, il faut bien avoir en tête, quand on se lance dans une opération de vente sociale, que nos premiers clients, ce sont finalement les locataires en place. On en parlait effectivement il y a quelques minutes. Donc, le premier critère qu'on va prendre en compte, c'est la capacité des locataires à devenir propriétaires de leur logement. Cette capacité, on va la mesurer déjà à travers l'âge, pour déterminer s'ils sont finançables, et puis aussi les revenus, bien évidemment, pour déterminer leur solvabilité. Et un élément qui a été aussi cité par Robin tout à l'heure, c'est le taux d'effort et c'est le saut de charge entre « j'étais locataire hier et je vais devenir propriétaire ». Ensuite, au-delà de cette capacité A, il faut bien évidemment que le locataire ait envie d'acheter son logement. Donc le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est d'essayer de se mettre à la place finalement de ce locataire ou de l'acquéreur final d'une façon générale. Donc essayer de se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'un acquéreur potentiel va regarder comme critère? Qu'est-ce qui va finalement déclencher l'acte d'achat? Là, moi, j'identifie déjà deux types de critères principaux. Le premier qui, je pense, fera consensus, c'est bien évidemment l'emplacement. En immobilier, c'est assez connu. Donc, l'emplacement, ça veut dire la proximité, premièrement, à son lieu de travail. On rappelle le lien emploi-logement qui est bien évidemment important. Donc, on va cibler des patrimoines qui sont proches d'un bassin d'emploi avec une dynamique économique importante. On va regarder aussi le cadre de vie, l'environnement immédiat, éventuellement la tranquillité résidentielle ou encore, bien sûr, la proximité aux commodités, commerce, etc. Et deuxième type de critère, ça va être les qualités intrinsèques de l'immeuble et du logement. Avec, par exemple, la qualité du bâti. Donc, un acquéreur potentiel va privilégier un logement dans lequel il y a peu ou pas de travaux à court terme. Il va plutôt privilégier un logement qui bénéficie d'un espace extérieur, d'un balcon ou encore d'un ascenseur.
Très demandé depuis les confinements, d'ailleurs.
Effectivement, l'effet Covid, l'espace extérieur est très important. Et un autre élément aussi qui est important de plus en plus chez les ménages depuis quelques années, c'est bien sûr la performance énergétique. Bien sûr. À travers l'étiquette DPE, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard.
Alors DPE, diagnostic de performance énergétique.
Exactement, merci de le rappeler. Donc une fois qu'on a fait ce premier filtre, élément important aussi, c'est de s'assurer que finalement le patrimoine qu'on a ciblé est bien en adéquation avec son marché. Un peu tendance à l'oublier. Mais du coup, j'invite vraiment fortement l'ensemble des bailleurs à faire une étude de marché qui va permettre de s'assurer, par exemple, que la taille du patrimoine qu'on a ciblé est cohérente avec la profondeur de marché, que le type de logement qu'on va proposer est bien adapté à la demande. On évite de mettre un immeuble collectif à la vente sur un marché dit d'individuel. Et puis enfin, surtout, bien évidemment, on va s'assurer que les prix de marché constatés, donc l'ensemble des comparables, sont bien en adéquation avec nos objectifs de plus-value, donc chers aux bailleurs sociaux, bien évidemment, puisque c'est l'objectif. Et on ne fait pas l'inverse, on ne va pas déterminer ces prix de revente en fonction d'un objectif de plus-value. Je finirai par aussi deux indicateurs qui sont bien évidemment essentiels dans une opération de vente sociale, c'est la vacance et la rotation, c'est-à-dire les libérations de logements au fur et à mesure des années. Puisque la libération, la rotation va permettre finalement de venir compléter la vente aux locataires par de la vente de logements vacants. Et comme l'a rappelé David tout à l'heure, on a cet effet vertueux de la vente sociale avec un logement vendu qui permet de créer en moyenne 3 nouveaux logements. Donc la libération permet de créer plus d'offres de vente en logement. Donc ce qui est intéressant, je trouve, parmi l'ensemble de ces critères pour dresser ce profil type de patrimoine adapté à la vente sociale, c'est qu'on voit qu'il y a les types de critères comme l'emplacement ou les qualités intrinsèques sont finalement des données qui vont peut évoluer, enfin qui n'évolueront pas dans le temps ou sur lesquelles on a une maîtrise dans le temps. En revanche, quand on parle de données de marché, de rotation, de solvabilité des locataires, là, on est sur des données qui vont évoluer pendant le temps de la commercialisation, qui va durer environ 10 à 15 ans. C'est un temps long, donc il peut se passer plein de choses. Et on le voit bien qu'en temps de crise, bah, on a des indicateurs qui vont complètement se dégrader. Donc, c'est vrai qu'une vente en bloc à un opérateur comme l'ONV, ça va permettre finalement de transférer ce risque de dégradation de ces indicateurs. On va transférer le risque commercial à cet opérateur, tout en continuant de générer en masse des fonds propres qui vont permettre de construire de nouveaux logements.
Bien, merci beaucoup, Aude Catrice. Alors là, on l'a bien compris, donc tous ces critères permettent le choix du patrimoine. Donc une fois que le patrimoine a été sélectionné, les logements doivent être vendus. Mais la vente sociale est-elle une vente comme les autres? C'est la question que nous allons nous poser.